quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et tout cela, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Votez pas pour les riches, c'est con et ça peut faire très très mal.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le 17 octobre 1961, les Algériens de Paris manifestent contre le couvre-feu qui vient de leur être imposé.
Mais la répression policière a été d'une telle brutalité que l'opinion publique s'émeut. Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Dans la cour même de la préfecture de police, des dizaines de manifestants sont tabassés avec sauvagerie.
200 Algériens au moins ont été tués cette nuit-là.
Ces cadavres ont flotté jusqu'au Havre, hein, je dirais. Hein. Étant enfant, je peux témoigner que la gendarmerie du petit bled où j'habitais lorsque j'étais enfant ramassait régulièrement des cadavres sur le territoire de la commune qui étaient mis à la morgue, des cadavres d'Algériens qui avaient été ratonnés, matraqués pendant cette manifestation.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez, ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il avait été conseillé aux musulmans algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin pour éviter de nouveaux attentats contre les gardiens de la paix et aussi pour que les travailleurs musulmans ne soient pas confondus avec les terroristes. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, Force ouvrière de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix. Aux arguments de ces organisations, M. Roger Frey, cette nuit, devant les députés, a opposé les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises et surtout, il les a justifiées par leur efficacité, Jean-Pierre Elkabbach.
En effet, du 29 août au 7 octobre dernier, 102 attentats avaient fait 99 victimes, dont 52 tués musulmans et 11 morts parmi le service d'ordre. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis l'application de ces mesures, il n'y a eu qu'un seul attentat faisant un blessé. Le FLN essaie donc maintenant par tous les moyens d'obtenir la suppression des décisions gouvernementales qui gênent son action terroriste. On ne sait pas encore pendant combien de temps ces mesures resteront maintenues. Elles seront en tout cas appliquées jusqu'à ce qu'on puisse être assuré que le retour à la normale n'entraînera pas des risques pour des vies humaines. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs M. Roger Frey. D'autre part, on a rappelé à Paris 6 compagnies de CRS et 4 escadrons de gendarmerie pour bloquer d'éventuelles manifestations musulmanes. La police vérifie soigneusement en ce moment l'identité de chacun de ces 9260 Algériens. 6600 d'entre eux sont au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, 1800 au stade de Courbertin et 660 à Vincennes.
Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous.
Salut tout le monde, émission spéciale dédiée à cette date de moins en moins oubliée de l'histoire de France, le 17 octobre 1961, avec nos historiens maison. Salut André.
Bonjour à tout le monde.
Et Daniel, salut Daniel.
Bonjour à tous.
Le 17 octobre 1961, qui est l'un des nombreux épisodes de cette guerre, officiellement guerre d'Algérie depuis 1999, hein, parce qu'à l'époque on disait les événements, les opérations de maintien de l'ordre, guerre d'Algérie qui, on le rappelle, s'échelonne officiellement de la Toussaint 1954, jusqu'à la signature des accords d'Évian en 1962. Le 17 octobre 1961 est une date qui réémerge dans l'histoire de France. Est-ce qu'on peut parler d'un crime d'État ?
Oui, pourquoi d'abord cette date est-elle devenue si tardivement un événement examiné par les historiens, évoqué par les historiens ? Bah, parce que c'est assez honteux, c'est même tout à fait honteux dans l'histoire de France, c'est une tâche. La République, la France et globalement les Français d'une manière ou d'une autre n'ont pas à être fiers de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Voilà pourquoi cette date a été aussi occultée. D'ailleurs globalement les événements d'Algérie ont aujourd'hui été très largement occultés, hein, cachés, et on fait peu de publicité là-dessus.
Le 17 octobre 61, la guerre d'Algérie dure depuis de nombreuses années, depuis 54, et elle va se terminer moins de 9 mois plus tard. Quelle est la situation précise ? Les nationalistes algériens, le FLN, a décidé de porter une partie de la guerre d'Algérie sur le territoire métropolitain français. Il y a des attentats et des opérations, en particulier ciblées contre la police et surtout la police parisienne. Voilà. pour répondre à ce défi, les autorités de la République, le président et le général de Gaulle, le premier ministre Michel Debré, le ministre de l'Intérieur et Roger Frey, et le préfet de police de Paris, et le devenu tristement célèbre Papon, Maurice Papon. Ils décident, pour gêner l'organisation des nationalistes algériens et du FLN, d'imposer un couvre-feu sélectif à l'égard des Français d'origine algérienne. Alors ce couvre-feu sélectif, de nos jours comme à l'époque, est illégal, puisque c'est un couvre-feu discriminatoire. Alors, les textes officiels arrangent un petit peu le truc en disant que pour les Français d'origine algérienne, pour des raisons de sécurité, il leur est fortement déconseillé de sortir à Paris après 20 heures et pour la durée de la nuit. Pour protester contre ce couvre-feu discriminatoire, le FLN décide de faire une manifestation dans le centre de Paris et une manifestation pacifique. Il organise cette manifestation, il l'encadre. La consigne, c'est pas une arme, pas un canif, pas une épingle, pour éviter une confrontation violente et fatalement sanglante avec les forces policières. Et la manifestation a lieu, il y a des dizaines de milliers de participants. En face des manifestants, il y a 11 000 policiers. La manifestation est prévue de 19h à 20h, c'est-à-dire avant le couvre-feu. Et ils déroulent des affrontements. 11 000 manifestants arrêtés. Officiellement, il y a deux morts. La thèse officielle, ce sont des manifestants qui ont menacé des policiers en état de légitime défense. Ça, c'est les deux morts officielles. En fait, suivons les sources, et là on n'a pas encore de recherche suffisamment avancée, on a entre 100 et 300 disparus.
Sajjil, ana
arabi. Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte, 50 000. Nombre d'enfants, 8. Et le 9e arrivera après l'été. Et te voilà furieux.
Sajjil.
Inscrit, je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine. Et j'ai 8 bambas. Leurs galettes de pain, les vêtements, leurs cahiers de collier, je les tire des rochers. Oh, je n'irai pas quémander le monde à ta porte. Je ne me fais pas du petit au porche de ton palais. Et te voilà furieux.
C'était le 18 octobre, donc, 61. Nous avions fait une journée normale au CISS, ça s'appelait Service d'instruction du service de santé des armées, à Vincennes, où l'on formait des infirmiers. Et le soir, vers 5 heures, notre gradé est venu nous demander de descendre dans la cour avec notre casque lourd et une tenue de combat. Nous sommes montés dans un camion, nous ne savions absolument pas où nous allions. Simplement, de manière un peu mystérieuse, on nous a dit il y a quelque chose de très délicat, il faut les types sérieux, c'est très délicat, c'est très délicat. Voilà. Et on est arrivé brutalement projeté, si vous voulez, d'une vie de caserne toute simple, dans l'horreur. On a vu dans le grand amphithéâtre, disons, la porte de Versailles, ce que j'ai appris à être des milliers, mais enfin, beaucoup de gens, d'hommes, essentiellement des hommes, africain, nord-africain. Et à ce moment-là, on a vu un capitaine qui était vert, vert. Et nous avons vu le comité d'accueil dont parle Jean-Luc Enaudi, un autobus de la RATP, dont sortaient des gens avec les mains sur la tête, et une rangée de civils, d'ailleurs, je tiens bien à dire que c'était des gens civils. Alors j'ai appris ensuite que c'était des flics, je ne savais pas du tout à ce moment-là, qui tabassaient, on s'a crié, il y en a qui roulaient par terre, on essayait d'atteindre la tête et puis les parties génitales. Et le capitaine en question a dit « c'est un déshonneur pour la France ». Et en rentrant à droite, il y a une pièce qui doit faire 15 mètres carrés, qui devait être prévue pour l'entretien. Et j'ai vu 9 types par terre, hein, morts. Morts, ça c'est sûr. Balancés comme ça.
Tout d'abord, au moment de la manifestation, il y a un blackout complet. C'est-à-dire que la police, les autorités françaises, interdisent à tout journaliste de prendre des photos, de prendre des interviews, de filmer à plus forte raison. Et donc on a très peu de documents filmés habituels sur les manifestations. En revanche, on a énormément de témoignages sur la brutalité des forces policières et même sur des coups de feu qui ont été tirés sur une foule désarmée au pont de Neuilly, par exemple. Donc la thèse officielle des deux morts, ça ne tient pas, c'est complètement farfelu. Enfin, c'est un mensonge d'État, évidemment. En réalité, il y a eu des assassinats, et on pense même qu'il y a eu des assassinats dans la cour de la préfecture de police. Et on a de bons témoignages qui corroborent cette affirmation. De plus, ces disparus ont disparu, ces gens n'ont jamais refait surface, ces hommes et ces femmes ont disparu. Que leur est-il arrivé? Ils ne sont pas allés dans un paradis quelconque, ils ont été assassinés. Alors beaucoup ont été jetés à la Seine, c'est vrai. Hein, la police s'est pas embêtée, elle a jeté des gens après les avoir abondamment matraqués, des gens qui se sont noyés ou qui étaient morts déjà avant de tomber dans la Seine. Et ces cadavres ont flotté jusqu'au Havre, hein, je dirais. Hein. Étant enfant, je peux témoigner que la gendarmerie du petit bled où j'habitais lorsque j'étais enfant ramassait régulièrement des cadavres sur le territoire de la commune qui étaient mis à la morgue, des cadavres d'Algériens qui avaient été ratonnés, matraqué pendant cette manifestation. Affirmer qu'il y a deux morts, bon, c'est indigne d'un historien. Il est évident qu'il y a eu des brutalités sans nombre, qui se sont même effectuées d'ailleurs après la manifestation, car on a des témoignages sur les centres de rétention. La police a réquisitionné le palais des sports de Paris, où il y a entassé des centaines de personnes qui ont été abondamment matraquées. Après, les témoignages des infirmiers, des médecins...
Y compris des médecins militaires qui ont été appelés à la rescousse, dont certains ont été absolument horrifiés de la situation qui était faite.
Précisons qu'aucun policier n'a été tué, ni même blessé gravement. Aucun. Ce qui semble indiquer que les manifestants n'étaient pas du tout armés, n'ont pas riposté, se sont laissés matraquer dans les métros, dans les encoignures de portes, au bord de la Seine. Enfin, il y a eu des scènes de brutalité inouïe. La seule question que peut se poser l'historien, c'est pourquoi cette violence? Par quoi a-t-elle été permise? Qui a encouragé cette violence? Pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée? Quel est le degré de responsabilité du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, ou du Premier ministre ou de De Gaulle dans cette... Ça, ce sont des questions historiques, oui, on peut se poser ces questions-là. Mais sur la réalité de la violence policière, il n'y a absolument aucun doute. Ça a été une barbarie sans nom.
Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des brillants gendarmes. Remède à toutes les larmes, seul à tout le charme des chaussettes à clous.
Il s'agit d'homicides perpétrés par des policiers en uniforme, au cœur de la capitale française et par centaines.
Oui, bien sûr. Voilà, c'est un crime d'État, un crime. Je n'oserais pas dire que c'est un crime contre l'humanité, mais c'est un crime atroce, un crime de sang. Et la responsabilité historique des gens qui ont trempé dans l'affaire est toujours engagée. D'ailleurs, il a fallu l'obstination et le courage de Enodi, qui est un journaliste, pour refaire ressurgir ces événements-là. Parce qu'ils avaient été occultés. On est surpris par le silence assourdissant de la presse, les petits entrefilets insignifiants qui sont passés dans la grande presse nationale le lendemain de la manifestation. Comme si c'était passé des petits événements relativement anodins. Ça faisait des mois qu'il y avait des violences policières à l'encontre des Algériens qui vivaient en France. Là, les ratonnades n'ont pas été circonscrites au 17 octobre 61. Les ratonnades existaient depuis des mois. Et la police parisienne procédait à des chasses aux faciès. D'ailleurs, l'expression « chasse aux faciès » est née à cette époque-là.
Sajel, ana arabi.
Inscrit, je suis arabe. Mes cheveux, couleur du charbon. Mes yeux, couleur du café. Signe particulier, sur la tête, un keffiyeh.
Celui qui avait le malheur d'avoir une tête d'arabe, il passait un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, certains Espagnols, Italiens qui avaient des têtes un petit peu nord-africaines, eh bien, ils ont été aussi victimes de brutalité policière. Aucun droit ne protégeait ces gens-là. Alors bien sûr, il y avait des incidents extrêmement sévères et même des attentats contre la police parisienne perpétrés par des membres du FLN, c'est exact. Des policiers ont été assassinés, mais il faut voir dans quelles circonstances ils ont été assassinés. Je ne veux pas du tout diminuer la responsabilité, la culpabilité des militants du FLN qui ont tiré sur des policiers, qui ont assassiné des pères de famille. Mais quand même, il y avait un centre de torture à Paris, où des harkis, des policiers français assistés de harkis algériens, ont torturé des centaines de gens soupçonnés d'être des porteurs de valises ou des militants du FLN. On a torturé, on a assassiné, dans des culs de basse fosse, des Algériens. Et combien ont été assassinés dans le plus grand anonymat par des policiers qui voulaient se venger eux-mêmes. Et cette violence, cette brutalité a été encouragée par le préfet Papon. à la suite de l'assassinat d'un policier par le FLN, il a fait la tournée des commissariats parisiens et de Nanterre, etc., pour dire « vous pouvez y aller les gars, on vous couvre », c'est-à-dire « vous pouvez assassiner, vous pouvez brutaliser, vous n'aurez aucun ennui ». C'était un encouragement à la sauvagerie, c'était un encouragement à l'assassinat délibéré par la police parisienne. Il est sûr que Papon porte une responsabilité essentielle dans cette affaire. Étant bien entendu qu'il était sans doute couvert au-dessus de lui par des gens plus importants. Il faut voir un peu dans quel état d'esprit était Michel Debré, Premier ministre. Il était défavorable aux négociations avec le FLN, en désaccord avec De Gaulle. Il était resté sur une position Algérie-Française mordicus, sans concession. Alors évidemment, toutes ces brutalités lui donnaient des arguments pour dire « vous voyez, on ne discute pas avec ces gens, des salauds, etc. » Bien sûr.
À ce stade de l'émission, je voudrais qu'on écoute une archive que j'ai attrapée dans l'émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, consacrée au 17 octobre. Il s'agit du témoignage d'un policier de l'époque.
J'ai vu certains collègues enlever les câbles de frein pour en faire usage de quoi, je n'en sais rien, puisqu'ils ne les ramenaient pas, les câbles de frein. Et quand ils faisaient des arrestations, ils emmenaient des Algériens, soi-disant, au centre de Vincennes. Ma foi, c'est peut-être possible aussi, mais enfin, malgré tout, les Algériens ne revenaient pas et les câbles de frein non plus.
Donc vous avez pensé que ça pouvait servir, par exemple, à les étrangler ?
Ben, il a été... Moi, je ne l'ai pas vu, mais il a été repêché des corps dans le canal Saint-Martin, comme dans la Seine, où il y avait des câbles de vélo autour du cou des personnes qui avaient été étranglées, quoi, les Algériens.
Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec le rable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou dans les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des humbles gendarmes, parurent en même temps car c'est là tout le charme des chaussettes à clous.
Toujours avec nos amis historiens André et Daniel autour de cette date de l'histoire de France, 17 octobre 1961. On est à l'époque en pleine guerre d'Algérie. Sur le territoire métropolitain, il y a une population algérienne très nombreuse qui est présente là depuis les années 30 ou même plus avant, puisqu'il faut du monde quand même pour faire tourner les usines. Et donc il y a une forte communauté algérienne en France. Le Front de Libération Nationale, le FLN algérien, appelle à une manifestation pacifique ce 17 octobre 1961. Ordre est donné aux fonctionnaires de police de réprimer cette manifestation pacifique. Daniel.
Parce que les autorités policières et politiques françaises et parisiennes vivent ceci comme une véritable provocation. Et en même temps, ça entre dans un jeu politique où, au sein du gouvernement, et entre le Premier ministre et le Président de la République, il y a un désaccord sur la marche à suivre. Bon, De Gaulle, depuis 1959, s'est prononcé pour l'autodétermination, qui entraîne d'ailleurs une journée des barricades au début 1960 à Alger. En décembre 60, De Gaulle va en Algérie et est confronté à des manifestations de nationalistes et d'indépendantistes algériens qui brandissent des drapeaux algériens. Le 8 janvier 61, quelques mois avant la date qui nous occupe, De Gaulle organise le référendum sur l'autodétermination, c'est-à-dire qu'il demande si, oui ou non, l'ensemble des Français de métropole et d'Algérie, tout le monde vote ensemble, sont favorables à un processus de décision d'autodétermination en Algérie. Le référendum donne 75% de oui. Et les partisans de l'Algérie française comprennent, ils l'avaient déjà compris depuis quelque temps, ils comprennent bien que c'est la fin pour eux. C'est la fin. Et d'ailleurs, quelques semaines après le référendum de janvier 61, c'est la tentative de coup d'État des généraux d'Alger, entre le 21 et le 25 avril 61, pour s'opposer à cette politique d'autodétermination voulue par De Gaulle. À partir de ce moment-là, se développe l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire une organisation de terroristes Algérie française, qui s'oppose à ceux qu'il dénomme comme les terroristes du FLN et qui se tourne contre les militants nationalistes algériens, mais aussi contre les Européens d'Algérie dits libéraux, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à l'indépendance d'Algérie, et qui commencent à organiser des attentats contre De Gaulle. Avant la fameuse journée du 17 octobre, il y a déjà eu une tentative d'assassinat du président de la République par l'OAS. Et donc, les partisans du maintien de l'Algérie française veulent faire monter les enchères en plein milieu des négociations d'Évian. Le 17 octobre, les négociations ont déjà commencé. Elles sont dans une période d'interruption. Elles vont reprendre quelques semaines plus tard, avec comme grande question la question du Sahara algérien. Est-ce que l'Algérie, qui va être indépendante, tout le monde le sait bien, est-ce qu'elle va inclure le Sahara ? Sahara dans lequel on vient de découvrir du pétrole et qui sert de champ d'expérimentation aux premiers essais nucléaires français, puisque de Gaulle a décidé de doter la France de l'armement nucléaire. Donc on voit bien qu'on est dans une période clé avec des enjeux majeurs pour les uns et pour les autres. Et évidemment qu'ils sont totalement contradictoires. Et je pense que ce crime d'État du 17 octobre ne peut pas être isolé de ces enjeux. Quand on voit la férocité de la répression, l'ampleur des assassinats, je reprends les estimations entre 100 et 300, peut-être plus, on ne peut pas dire, mais des centaines de manifestants désarmés qui sont matraqués, battus, tués ou noyés, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut noter, on est en 61. Une grande partie du corps policier, la police de l'époque n'est pas tout à fait exactement la police d'aujourd'hui. Ceux qui ont eu à réquisitionner le palais des sports étaient orphelins du Veldiv. Et une partie du personnel policier était un personnel policier de l'époque du régime de Vichy. Et leur chef à tous, le préfet de police de Paris, Papon, était celui aussi qui, préfet pendant le régime de Vichy à Bordeaux, a organisé des convois de juifs pour aller dans les camps d'extermination. Donc il faut bien voir qu'on est très proche, hein, 15 ans, très proche d'une période qui avait montré une certaine expérience, pour pas dire une certaine expertise, dans ces opérations, au fond, de crimes contre l'humanité.
Quand tu parles du Veldiv, hein, il s'agit de la rafle dite du Vélodrome d'hiver où on a parqué sous l'occupation des Français juifs pour les déporter. Ce que tu viens d'évoquer là, c'est que des policiers qui ont participé à la rafle du Veldiv étaient potentiellement encore en fonction en 17 octobre 61.
Alors, il faut aussi préciser qu'il y a eu des syndicalistes de la police qui ont essayé d'arrêter et de dénoncer ce qui se passait. Ils n'étaient peut-être pas les plus nombreux, mais ils étaient courageux. Évidemment, ils n'ont pas été entendus.
Monsieur Heydrich a également pris contact avec Monsieur Darquier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec Monsieur de Brinon. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir Monsieur Bousquet.
Un petit loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous ?
Un petit loriston, que lui donnerez-vous ?
Un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles.
Une grosse tête bien saignante, une gonorrhée filante.
Un sac de caca jaune pour lui faire plaisir. Au guet,
au guet, au guet, au guet, le joli loriston tonton.
À ce moment-là, j'ai accompagné le type qui voulait aller aux chiottes. Ça a duré des heures, ça aussi. J'ai accompagné un type après l'autre, si vous voulez. On attendait qu'ils aient fini, puis on les ramenait à leur place. Mmh. Et au moment où nous allions rentrer, on a été refoulés brutalement par les gardes mobiles, et il y en a un qui a tiré de bas en haut, je me rappelle encore très bien, et un type m'a ramassé derrière, en sang. Et puis on m'a refoulé à ce moment-là.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
Avec nos amis André et Daniel, on parle aujourd'hui du 17 octobre 1961. Manifestation pacifique réprimée dans le sang et dans le meurtre par les forces de police. une date et une manifestation qu'on confond un peu avec celle dite de Charonne. Comment se fait-il que celle de Charonne soit un peu plus rentrée dans les mémoires et dans l'histoire et qu'il ait fallu faire dans les années 80 un travail d'historien pour exhumer cette date du 17 octobre ? Charonne, c'était autre chose, hein, André ?
Oui, Charonne, c'est autre chose. Ça se passe le 8 février, je crois, 1962. Et il s'agit d'une manifestation massive des communistes appelés par le Parti communiste et la CGT pour, d'une part, demander la paix en Algérie, là, c'est-à-dire l'accélération des négociations de paix des déviants, et en même temps pour protester contre l'OAS et l'action de l'OAS, hein, assimilée à un mouvement fasciste. Cette manifestation s'est fort mal terminée. Elle a été d'abord matraquée par la police de façon très brutale. La même police qui a assassiné des Algériens a matraqué des manifestants. Il y a eu en particulier un épisode tragique. 8 manifestants bloqués dans une bouche de métro dont on avait fermé les grilles ont été assassinés à coups de grilles d'arbres et de plaques de fonte, etc., par la police, matraqués à mort. 8 morts, dont 2 femmes, je crois, et un adolescent de 16 ans. Tous membres du Parti communiste et de la CGT. Évidemment, cet assassinat par la police a donné lieu à des obsèques et à une manifestation absolument gigantesque de toute la gauche et qui a probablement accéléré la signature des accords de paix d'Évian, hein, le 19 mars 1962. Ça pose le problème... ces deux événements, hein, qu'on a souvent confondus, des rapports entre le Parti communiste, la gauche, les syndicats et les Algériens. Parce que c'est quand même une chose qui pose problème à l'historien et, ou même simplement à l'observateur de la politique française, c'est comment se fait-il que les communistes n'aient pas manifesté contre les ratonnades 17 octobre, ou en tout cas, certes, les colonnes de l'Humanité avaient de nombreux articles pour protester contre les brutalités policières, mais enfin, il n'y a pas eu d'ordre de grève après un événement aussi tragique. On est surpris qu'il n'y ait pas eu de mot d'ordre de grève générale ou de manifestation pour protester contre l'assassinat de gens qui tout de même étaient des prolétaires, des gens de la classe ouvrière. Certes, pas français, enfin, pas français de souche, mais prolétaires tout de même. Je vais vous donner maintenant mon impression, mon opinion. Ça semble dénoter, sinon un divorce, en tout cas un écart entre la classe ouvrière française et ces travailleurs algériens. Ils n'ont jamais été complètement assimilés, ils n'ont jamais été complètement intégrés dans la classe ouvrière française. Et il est possible aussi que dans le Parti communiste et dans les masses qui sont influencées par le Parti communiste, il y a quand même encore le sentiment que les Algériens étaient nos ennemis. Et je voudrais revenir là-dessus, d'ailleurs, sur l'attitude des policiers français. Ces gens, certes, pour les plus vieux, ont été de la police de Vichy, mais pour les plus jeunes, ils ont fait la guerre d'Algérie. Ils ont crapahuté dans le Djebel, en pâte au gaz, enfin, et ils ont subi les coups de feu. C'était une guerre, une sale guerre, une guerre assez difficile, dure, etc. Et ils ont vu sans doute tomber leurs camarades à côté d'eux, etc. Et inévitablement, cette guerre coloniale a engendré un racisme, une haine des Arabes, une haine des Algériens dans la population française, qui a été une haine assez profonde, qui a marqué ces générations-là, qui explique d'abord la brutalité d'une partie de la police parisienne, hein, chauffé à blanc par Papon, mais aussi une certaine réticence de la classe ouvrière à considérer ces gens-là comme les leurs, en fin de compte. Et en fait, le Parti communiste, la CGT, arrive à mobiliser les gens contre l'OAS et contre la guerre d'Algérie par lassitude aussi, hein, mais pas forcément par solidarité avec ces travailleurs émigrés qui habitent dans des bidonvilles, qui sont bien parqués, qui sont ghettoisés, ils sont dans des ghettos. Certes, il y a sur les lieux de travail, il y a cohabitation des travailleurs algériens et des travailleurs français, mais il faut croire que la greffe n'a pas pris en quelque sorte. Et que peut-être aussi le Parti communiste ne se reconnaît pas dans le FLN, qui est une organisation nationaliste, sans doute marquée un peu par l'islam aussi, en tout cas par la culture islamique, mais arabo-berbère, et le Parti communiste ne se reconnaît pas dans le FLN. Il ne faut pas oublier que le FLN est né par opposition avec ce qui existait déjà en Algérie, c'est-à-dire le mouvement de Messali Hadj, qui lui était proche du Parti communiste. Et cet éloignement n'a jamais été complètement comblé, en quelque sorte. Et le Parti communiste n'est pas à l'aise dans cette solidarité, en tout cas est au-dessous de ce qu'on aurait pu attendre d'un Parti communiste internationaliste.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais apporter deux précisions. C'est vrai que dans le programme du FLN, il y a quand même quelque chose qui peut décourager certains militants de gauche ou communistes français, puisque leur projet, c'est d'établir un État arabo-musulman. C'est-à-dire une double référence à la fois ethnique et religieuse. Deuxième chose qu'on peut faire observer, c'est que si globalement ce que tu dis, j'y souscris, quand même les rares militants français qui ont été arrêtés, torturés ou exécutés par le pouvoir colonial français, ce sont des militants communistes qui soutenaient les nationalistes algériens.
Et là, nous avons vu la télévision, au journal télévisé, avec Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui a affirmé solennellement qu'il n'y avait pas eu d'événement comme on pouvait l'imaginer, qu'il y avait une simple opération de vérification d'identité et qu'il n'y avait rien eu, à part chez les policiers où il y avait eu 2 blessés. Nous avons donc recommencé notre service, mais non plus dans le grand amphithéâtre dont je vous parlais, mais dans les bâtiments à côté de l'exposition. Et alors, dans la nuit, on nous a demandé d'accompagner des gens. Moi, par exemple, je devais prendre un tel, et les amener à une porte. Je ne savais pas ce qui se passait derrière la porte. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu sortir les gens de cette porte. Et en particulier un, dont on a dit qu'il avait 4 membres cassés, qui était dans un état épouvantable, il avait une plaie à la tête. Nous l'avons mis sur un brancard. Si vous voulez, ça a duré jusqu'au samedi soir, ça. Et nous avons eu droit à une permission. Je suis à la porte de Montreuil, chez le frère de mon père, mon oncle, et j'ai raconté ça. À ce moment-là, mon oncle a mis la télévision, c'était le journal télévisé, et il m'a dit à la fin, mais enfin, imagine-toi, s'il y avait eu quelque chose, ça se saurait.
Le vent modéré soufflera d'ouest, les températures maximales baisseront un peu, cependant que les minimums resteront inchangés. Au sud de la ligne Nantes-Strasbourg, le temps sera chaud et orageux. Les vents, le plus souvent faibles et variables, souffleront en rafale sous les orages. Quant aux températures, elles resteront du même ordre que précédemment.
Toujours avec André et Daniel autour de cette date de l'histoire de France, le 17 octobre 1961. Si je reviens un peu sur ce que vous disiez à l'instant, sur la brutalité des crimes policiers, c'est vrai que quand on voit quelques années plus tard des petits bourgeois de mai 68 qui brandissent des affiches CRS, SS, on se dit « Oh là là, ils exagèrent les mecs, bon c'est vrai que la police de 68 c'était pas la Gestapo Bon, finalement, ce que vous racontez là sur le crime policier, sur ces policiers qui ont participé potentiellement aux rafles du Veldiv, puis aux ratonnades de 61, finalement, ce cliché de 68, CRSSS, reprend un peu quelques vigueurs ou un autre relief.
Oui, à cette différence près que dans les événements de 68, la police n'a fait parmi les manifestants ou directement aucun mort et que ce n'était pas le même préfet.
Peut-être plus la même génération de policiers non plus.
Absolument, tout avait changé, pas la même génération de policiers, pas le même préfet et pas les mêmes enjeux, pas le même préfet. Papon a été finalement viré de son poste de préfet de Paris. Est-ce que c'est un désaveu C'est très difficile. Alors on attribue à De Gaulle, lorsqu'il a pris conscience de l'ampleur du massacre du 17 octobre, on lui attribue cette formule. Comme tous les mots historiques, ils ne sont pas forcément véridiques, mais ils disent des vérités. On lui attribue la formule suivante, c'est un détail, mais c'est inacceptable. Voilà. Et le préfet de Paris en 68, c'est Grimaud, qui est un personnage infiniment plus subtil. Il n'y a pas les mêmes enjeux aussi. Le Premier ministre, le président du Conseil, c'est Pompidou. On est face à des fils de bourgeois, pas à des Arabes. Surtout les manifestants étudiants de 68, ce sont quasi-totalité, les enfants, les neveux ou les petits-enfants de ceux qui sont au pouvoir. Et Pompidou, universitaire par ailleurs, est partisan d'une politique beaucoup plus subtile face à la jeunesse étudiante en 68, beaucoup plus subtile que De Gaulle sans doute. Mais voilà, les choses sont tout à fait différentes. Les enjeux politiques, le personnel de répression et le personnel de manifestants, tout ça c'est très différent.
Alors on va se pencher peut-être maintenant sur l'histoire d'un personnage moins subtil que Pompidou et compagnie, Maurice Papon. Quelle belle carrière cet homme-là a faite dans l'administration quand même, hein, André.
D'abord, je voudrais reprendre un petit détail de ce qu'a dit Daniel tout à l'heure.
Attention avec ce mot détail là, parce que...
Les détails de l'histoire, je sais, c'est délicat. Il n'est pas préfet, il est secrétaire de la préfecture de Gironde. Mais bon, peu importe, il a une responsabilité au plus haut degré. Et effectivement, c'est lui qui signe, puisque les documents ont été retrouvés, c'est lui qui signe la déportation de familles, y compris les enfants, parce que cet homme était très humain, il n'a pas voulu séparer les enfants de leur mère. Bon, tous ces gens ont été gazés et exterminés à Auschwitz. Bien, comment se fait-il que cet homme, on le retrouve haut fonctionnaire de la Ve République, de Gaulle, grande figure tutélaire, on peut dire, de la résistance et de la France libre. Bah, parce que de Gaulle... C'est assez simple en fait. De Gaulle, en 44, lorsqu'il revient en France et qu'il installe son pouvoir en quelque sorte, enfin, qu'il rétablit la France libre, il est très pressé. Il est très pressé. Et les Américains voudraient mettre en place une administration militaire, l'AMGOT. Ils ont déjà imprimé les billets de banque et tout. Ils veulent faire en France ce qu'on a fait en Allemagne. Ils considèrent d'ailleurs, ce qui n'est pas complètement faux, que la France a été un pays ennemi, hein, puisqu'il était allié à l'Allemagne. Et donc, il veut faire une administration militaire. De Gaulle, évidemment, pour lui, c'est absolument inacceptable. Et donc, il met en place très très vite les commissaires de la République, les préfets, etc. Il a besoin d'hommes. Or, qu'a-t-il à sa disposition ? Il a des gens de la France libre, certes, il n'en a pas énormément, et il a des résistants. Les résistants, d'ailleurs, dans certaines régions, ont déjà pris le pouvoir, contrôlent déjà des départements. Or, ces résistants, ils ont, aux yeux de De Gaulle, ils ont un vice fondamental. Ils sont souvent communistes. Et pas question pour De Gaulle de partager le pouvoir avec les communistes, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Il faut qu'il établisse des hommes sûrs, et donc il n'est pas très regardant sur les gens. Il ne se fait pas trop d'illusions sur certains revirements de gens qui ont été pétainistes et qui deviennent tout d'un coup comme ça des résistants, des gens de la France libre.
Voire même des présidents de la République.
Bien sûr, mais il n'est pas trop regardant. Hein. Il va prendre des serviteurs de sa République, hein, y compris parmi des gens qui ont été des serviteurs de trucs comme ça. D'ailleurs, Papon n'est pas le seul. Tenez, je vais évoquer un nom que tout le monde connaît, Bettencourt. André Bettencourt. Sous Pétain, Bettencourt est un pétainiste convaincu. Il écrit dans La Gerbe, hein, qui est un journal rural. Hein, La Gerbe, comme son nom l'indique, oui, je sais. Et il écrit des articles. Et dans La Gerbe, il y a des articles antisémites, fascistes, du meilleur cru. Et Bettencourt, quand il voit évidemment en 1944 tourner l'histoire, ben, il retourne sa veste, il se met un brassard France libre. Il va s'occuper du retour de nos chers prisonniers, etc. Il va même être décoré. De je ne sais quelle décoration de la résistance ou de la libération, et il devient ministre. Il passe par la petite savonnette à Vilain qui est le CNIP, le Conseil National des Indépendants et Paysans, qui est la première forme de la droite en France, hein, qui est le parti de Pinet ancien pétainiste lui aussi, hein, et où se trouve d'ailleurs Giscard. Giscard d'Estaing, qui est également au CNIP. Et après ce petit passage, il devient républicain indépendant, parti de Giscard, et il va devenir ministre du général de Gaulle. Or, c'est un ancien pétainiste. D'ailleurs, la firme L'Oréal s'est vautrée dans le pétainisme avec délices pendant la guerre. Et le patron de L'Oréal a failli être mis en taule, M. Schuller. C'était le papa de Liliane, Mamie Zinzin, etc. Ben, son papa, Mamie Zinzin, c'était un fasciste. Bon, ben voilà.
Revitalif te raffermit visiblement la peau.
Mes rides sont moins visibles. Ma peau paraît plus ferme.
Double action, double efficacité. Revitalif, seulement de L'Oréal Paris.
Parce que vous le valez bien.
Alors donc, si vous voulez, Papon fait donc partie de ces gens qui sont récupérés par les cheveux, par De Gaulle, hein, pas trop regardant, qui a besoin de gens à sa dévotion. Et d'ailleurs, il va comme ça en récupérer certains autres, hein. Bon, on va pas faire la liste de tous les anciens pétainistes qui ont servi De Gaulle, mais c'est logique chez De Gaulle. Vaut mieux prendre d'anciens pétainistes blanchis plutôt que des communistes. Ou des communistes, ou des apparentés communistes, ou des gens qui ne sont pas à la botte de De Gaulle. Parce que De Gaulle veut contrôler le pays. Et il va très vite, De Gaulle, hein. Il va très vite. Alors bien sûr, lorsque ce sont des gens de la Résistance ou de la France libre qui sont... plutôt neutre ou irréprochable, comme Aubrac. Il prend Aubrac, hein, qui est commissaire de la République à Marseille et qui a fait le ménage à Marseille pendant l'épuration, etc. Mais certains ne sont pas irréprochables. C'est le cas de Papon, qui est resté... Alors, on peut dire d'ailleurs que Papon, il passe en jugement. Il est passé en jugement pour ses crimes contre les juifs de Bordeaux, mais n'est jamais passé en jugement pour ses crimes contre les arabes. C'est quand même, en fin de compte, il y a des morts plus ou moins culpabilisants en quelque sorte. Hein. Bon, je dis ça sans mauvais état d'esprit, bien sûr.
Papon, en 68, n'était plus préfet de police, mais il n'a pas été mis au rancard, hein, puisqu'il a terminé sa carrière publique et politique comme ministre. Ministre sous Giscard d'Estaing, il était ministre du budget du gouvernement de Raymond Barre en 81, c'est-à-dire à la veille de l'élection de Mitterrand comme président.
Belle carrière.
Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vous ai compris.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme. Parce que je suis opportuniste.
Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste.
Toujours avec André et Daniel autour de cette date de l'histoire de France, le 17 octobre 61, crime d'État commis par des policiers en uniforme au cœur de la capitale française, un crime d'État qui va être oublié pendant des décennies, et puis finalement une mémoire va être réactivée dans les années 80. Pourquoi est-ce que cette date a sombré dans l'oubli pendant aussi longtemps ?
Parce qu'à la fin 61, en octobre 61, les autorités politiques, le gouvernement, etc., ont organisé un véritable blackout sur cette opération qui était quand même particulièrement inacceptable. André rappelait tout à l'heure que sur le moment, il n'y avait pas de journalistes français. Les seules traces filmées qu'on a, à ma connaissance, a été tournée dans l'après-midi du 17 octobre, par un journaliste britannique de la BBC. Et pendant la manifestation, pas de journalistes, c'est impossible. Ils sont réduits au silence. Alors, il est vrai que dans les milieux politiques, il y a des réactions. À l'Assemblée nationale, des questions sont posées. On demande la formation d'une commission d'enquête parlementaire. Elle ne verra jamais le jour. Au Sénat, même scénario. Un certain nombre de sénateurs se posent des questions sur ce qui s'est quand même passé. Ils demandent la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale. Elle ne verra jamais le jour. Au Conseil de Paris, à l'époque, on n'a pas un maire de Paris, hein, et il y a un Conseil de Paris, même chose. Le Conseil de Paris demande une commission d'enquête. Elle ne verra jamais le jour. On organise le silence. Cette journée et cette nuit est bien portée disparue. Et donc, pendant de nombreuses années, ça a été occulté, effectivement, par les victimes de la manifestation dite de Charonne, par les conséquences visibles de la fin de la guerre d'Algérie, les pieds noirs rapatriés, l'indépendance du pays, le sort des harkis, etc., etc. Donc, il y avait des événements beaucoup plus visibles qui retenaient l'attention à la fois des journalistes, des politiques et pendant un certain temps des historiens. Et effectivement, elle a été engloutie.
La fièvre d'Alger n'est pas apparente. Mais dans le port, une partie de l'escadre méditerranéenne avec le porte-avions Lafayette reste amarrée. Tandis que de rigoureuses mesures de sécurité sont maintenues et que 28 000 hommes des forces de l'ordre mènent une surveillance pour empêcher la recrudescence des attentats activistes. Paris n'a pas été épargné. Une flambée d'attentats au plastique a fait des dégâts et des victimes. Au Palais Royal, où les fenêtres du ministère des Affaires culturelles qu'occupe M. André Malraux ont volé en éclats, et rue Simon Dereure, à la porte d'un conseiller municipal, et où les criminels ont signé leur acte. En plein jour, deux autres explosions se sont produites dans le quartier de l'Opéra. L'une rue des Pyramides, dans les bureaux d'un journal, et qui a blessé deux passantes. Une autre, où l'on a relevé cinq blessés, avenue de l'Opéra. Des esprits faussés n'hésite plus devant le crime.
17 octobre 1961, on est à quelques mois de l'issue de la guerre d'Algérie, donc qui se conclura avec la signature des accords d'Évian. Finalement, la création de cette organisation armée secrète dite OAS, avec ces Français, Français algériens ou certains métropolitains, accrochés de manière virulente à l'Algérie française, qui était un département français, l'apparition de l'OAS, c'est assez tardif finalement dans cette guerre d'Algérie.
En 61, après l'échec du putsch. Des généraux, hein, le fameux carteron de généraux à la retraite, Salan et compagnie. Et c'est à ce moment-là que s'est mis en place l'OAS. C'est une sorte d'opération désespérée pour régler des comptes contre les indépendantistes algériens, contre les pieds-noirs libéraux et contre le pouvoir gaulliste, et en particulier de Gaulle lui-même, puisque ça part de ce malentendu originel, hein, le fameux discours de 58 de Gaulle à Alger, où s'adressant aux Européens d'Algérie, il leur dit « je vous ai compris ». Quand on lit la suite du discours, c'est hallucinant, parce qu'il leur dit tout ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et d'ailleurs, ils ne l'entendent pas. Ils ne leur parlent pas d'Algérie indépendante, mais ils leur signifient la fin du régime colonial en Algérie. Et ça, évidemment, l'immense majorité des Européens d'Algérie ne veulent pas en entendre parler. Mais ils n'ont entendu que « je vous ai compris ».
La fièvre qui a saisi la population algérienne ne devait pas se démentir. Et c'est au milieu d'une prodigieuse exaltation collective que l'homme qui porte aujourd'hui les destinées françaises a lancé son message à une foule dont l'image seule peut dire le nombre et la voix seule la ferveur.
Je vous ai compris ! Je sais ce qui s'est passé ici !
On va en revenir au personnage de De Gaulle, hein, qui, André, tu l'as déjà évoqué dans des émissions précédentes, arrive en 1958 sur les épaules des parachutistes. Ça a été démontré de manière catégorique par des historiens sérieux. De Gaulle, il est très embêté avec cette Algérie-là. C'est un peu, passez-moi l'expression, c'est un peu un bâton merdeux, quoi. Et il ne sait pas vraiment sur quel pied se dandiner.
La seule manière qu'a De Gaulle de revenir au pouvoir en 58, pouvoir qu'il a abandonné en 46, c'est les événements d'Algérie, la crise politique entraînée par les événements d'Algérie. Et les partisans de De Gaulle vont exploiter et vont même provoquer une situation en Algérie permettant le retour de De Gaulle au pouvoir. C'est ça le putsch de De Gaulle, c'est ça le coup de De Gaulle. De Gaulle ne peut pas revenir par les urnes, il n'a jamais pu depuis 1946, mais il pense qu'à la faveur des événements d'Algérie, il va pouvoir reprendre la main, reprendre le pouvoir. Sur qui s'appuie-t-il, De Gaulle ? Il s'appuie essentiellement sur les partisans de l'Algérie française. Les gens qui portent De Gaulle au pouvoir, ce sont les partisans de l'Algérie française. Parmi eux, bien sûr, on peut faire des distinguos. Il y a les partisans de Gaulle, les gaullistes, qui sont très organisés. Hein, il y a parmi eux des gens très malins, des gens déterminés à faire revenir De Gaulle au pouvoir, mais il y a aussi une quantité de gens qui ne travaillent pas au départ spécialement pour De Gaulle, qui travaillent pour l'Algérie française. Ce sont les poujadistes, les gens de l'extrême droite, ou en tout cas les partisans acharnés, fanatiques de l'Algérie française, ceux que l'on appelle les ultras. Parmi eux, il y a les poujadistes, le cafetier Ortiz, l'étudiant Lagaillarde, ces gens qui vont être des figures des événements d'Alger.
Le Pen ?
Oui, effectivement.
Jeune Jean-Marie.
Oui, qui s'engage dans l'armée, qui devient lieutenant, je crois, dans une unité, et qui fait du renseignement. Je vous laisse à penser ce que peut être le renseignement à l'époque en Algérie. Donc voilà, cette conjonction entre les gens qui veulent le retour de De Gaulle au pouvoir et les partisans de l'Algérie française aboutit, avec des complicités au plus haut niveau dans l'armée et dans la police, aboutit à l'insurrection de mai 58 en Algérie, c'est-à-dire par la sécession de fait du territoire algérien avec la complicité de l'armée, l'Algérie se sépare de la France, alors que l'Algérie, comme disait Mitterrand, c'est la France. Et là, il y a une situation d'une grande gravité, n'obéit plus à le pouvoir politique français.
Pris par les militaires.
Par les militaires et par la population algéroise, c'est-à-dire les Européens d'Alger, et à la prise du bâtiment du gouvernement général d'Alger. Là, les gaullistes jouent fin. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont conduire les militaires, qui au départ ne sont pas spécialement gaullistes, à appeler De Gaulle au pouvoir. Parce que certes, Massu est un gaulliste convaincu, mais ce n'est pas le cas de Salan, qui se fait tirer l'oreille, mais ils sont assez malins en quelque sorte pour manipuler ou en tout cas conduire ces militaires à appeler De Gaulle au pouvoir. Donc en 58, en mai 58, De Gaulle est appelé au pouvoir par des généraux putschistes, par des gens qui ont fait sécession, par des gens qui sont dans l'illégalité, et par des partisans fanatiques de l'Algérie française, c'est-à-dire de la continuation de la guerre, et contre toute négociation avec le FLN. C'est ça le malentendu de départ, parce qu'ensuite ces gens-là, ils comptent sur De Gaulle pour poursuivre la guerre, et écraser le FLN, et refuser toute négociation sérieuse avec les nationalistes algériens. Donc De Gaulle prend le pouvoir, se sert de ce poids qui est l'armée, la dissidence de l'armée en Algérie, pour faire pression sur les milieux politiques français, qui se laissent violer, hein, on peut le dire, en dehors du Parti communiste et de quelques personnalités de la gauche, on peut dire une grande partie du Parti socialiste avec Guy Mollet, hein, et puis les radicaux, la droite, etc., s'alignent sur De Gaulle. De Gaulle n'aura pas besoin d'utiliser le coup d'État qui était préparé. L'opération Résurrection est un véritable coup d'État, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Ce coup d'État a été minutieusement préparé, il s'agissait d'une subversion du territoire métropolitain par l'armée d'Algérie, avec la complicité d'unités de la police et de l'armée en France, mais il n'a pas eu besoin de ça. En agitant simplement le spectre de cette subversion, De Gaulle a réussi à faire plier Coty, Mollet et puis bon, les principaux dirigeants. Il se fait attribuer les pouvoirs et ainsi, il exécute et il réalise un coup d'État sans avoir besoin de sortir ses militaires de la boîte. Formidable, hein ? Bon.
La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En appelant ensemble le général De Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Soudain, la Corse s'était jointe au mouvement. Et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation? Allions-nous vers la fin de la République? Le général De Gaulle avait répondu pour lui-même à cette question.
La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom.
Mais, en continuant son exposé, il posait aussi en même temps le problème des institutions.
C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés.
Alors, il est au pouvoir. Et comme dit Daniel fort justement, il fait un discours extrêmement ambigu où les Européens d'Alger n'entendent que ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire, bon, bah voilà, l'Algérie est française et elle va rester française. Hein, bon, voilà. Manque de chance, De Gaulle, une fois au pouvoir, très rapidement, on s'aperçoit qu'il ne peut pas obtenir une solution militaire. Il va essayer de l'obtenir quand même, ne serait-ce que pour négocier dans un rapport de force favorable, et il va pendant 2 ans au moins alimenter la guerre d'Algérie, qui va être une guerre extrêmement violente, une guerre militaire en quelque sorte. Il veut obtenir quand même la peau de la LN, hein, de l'armée de libération nationale. Mais assez vite, il se rend compte qu'il ne peut pas tenir sur cette position-là, et l'Algérie le gêne. Daniel a bien dit tout à l'heure, à partir de 59, ça y est, c'est plié, De Gaulle est favorable à l'autodétermination, et va s'arranger pour faire évoluer. Mais il faut qu'il soit extrêmement pédagogue avec une partie de son opinion, et en particulier avec les gens qui l'ont porté au pouvoir, et qui ne comprennent pas du tout. Les pieds noirs se sentent cocus dans l'affaire, hein. Et ils le sont, parce qu'ils ont amené au pouvoir un homme, et c'est lui qui va en fin de compte décoloniser l'Algérie, de fait. Même avec des hésitations, c'est quand même De Gaulle qui va l'amener. À partir de ce moment-là, l'hostilité est profonde. Et les mêmes gens, les mêmes barbouzes, les mêmes tueurs, parce qu'il y a eu des tueurs dans cette histoire-là, les mêmes militaires, policiers, hommes politiques, véreux, etc., qui avaient amené De Gaulle au pouvoir par le complot, vont retourner leurs armes contre De Gaulle. Et c'est ça l'OAS, en fin de compte, ce sont les plus ultras de l'Algérie française qui décident d'éliminer De Gaulle. Seulement, De Gaulle a d'autres moyens. Outre l'appui d'une grande partie de la population métropolitaine, c'est ce qui est fondamental, hein, il a à sa disposition des services secrets, des barbouzes, hein, et ça va être une guerre à couteau tiré avec l'OAS, une guerre de l'ombre, une guerre qui ne veut pas dire son nom, qui est une guerre d'assassinat, d'intoxication, etc. Hein, une guerre extrêmement tragique, elle aussi. Alors l'OAS a beaucoup de moyens, elle fait des hold-up pour s'obtenir de l'argent, elle achète du plastique, elle achète des explosifs, elle achète des armes. Ce sont des gens qui ont des complicités dans la police, au plus haut niveau. dans l'armée, ce sont des gens. Alors, ils essayent le coup d'État d'avril 61. C'est un échec. Le contingent ne marche pas dans ce coup d'État parce que le contingent veut rentrer à la maison. Les gens qui font leur service militaire, qui sont là des fois depuis 2 ans, et plus parfois en Algérie, veulent rentrer. Ils savent que la victoire d'un coup d'État, ce serait leur prolongation du séjour en Algérie. Ils ne le veulent pas. Donc le contingent ne marche pas. Une partie des sous-officiers et des cadres qui sont républicains sont contre cette aventure, surtout contre De Gaulle. Et donc ça échoue. Il ne reste plus que, comme dit Daniel, l'action désespérée, les desesperados de l'attentat, de l'assassinat. Et c'est d'ailleurs tragique parce qu'ils vont organiser une politique de la terre brûlée en Algérie. S'il faut qu'on s'en aille, la valise ou le cercueil, hein, ils organisent la destruction systématique de bâtiments publics, d'installations, d'électricité, etc. Ils assassinent tous les gens qu'ils soupçonnent d'avoir des sympathies avec la solution FLN, etc. Enfin, c'est affreux, quoi. C'est une période épouvantable. Ça se terminera d'ailleurs par un coup d'État contre De Gaulle, hein, en 62, au Petit Clamart. Un attentat, oui, qui a failli réussir. Hein. De Gaulle a eu une baraka gigantesque. Hein.
Voilà. Ça fait quand même 2 putschs, ou 2 tentatives de putsch, en un espace-temps très très limité. Donc, en 58, une première tentative de colonel factieux qui, depuis l'Algérie, essaye de prendre le pouvoir. Ce qui est marqué dans les manuels d'histoire, normalement, c'est qu'on appelle De Gaulle à la rescousse pour sauver la démocratie. En fait, il est appelé par les putschistes.
La formule de l'époque, il vaut mieux le général que les colonels.
Et finalement, une fois que ces militaires d'Algérie se sentent trahis et ont compris que De Gaulle a bien compris, autre putsch, autre tentative.
Oui, la journée des barricades. Qui est à la fois menée par une partie de la population d'Alger, algéroise, européenne, avec la complicité de l'armée. On est en 60. Et puis en 61, après le référendum sur l'autodétermination, au mois d'avril 61, c'est la tentative de putsch du quarteron de généraux, quelques mois avant notre fameux 17 octobre. Ça en fait 3. 58-60-61.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler.
Un putsch qui échoue 4 jours plus tard, le contingent et l'armée restant fidèles à De Gaulle.
Ce pouvoir a une apparence. Un quarteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois.
Je voudrais faire en guise un peu de conclusion, si vous voulez, un petit retour sur ces événements pour dire que la Ve République, hein, qui est toujours la nôtre aujourd'hui, est née dans la violence. Est né dans l'illégalité, dans le coup d'État, dans le putsch, tout sauf la démocratie en quelque sorte. Il est né dans des événements extrêmement dramatiques et ça n'a pas été sans conséquence sur la période jusqu'à nos jours. Il y a une certaine violence et surtout un recours assez fréquent à l'illégalité, aux barbouzes, aux opérations un petit peu douteuses en quelque sorte.
Ça sent la mallette pleine de fric là, dans ton truc.
Songeons qu'il y a quand même dans l'histoire de la Ve République, il y a des assassinats. Il y a des assassinats et des choses extrêmement obscures, des choses qui d'ailleurs n'ont pas encore été éclaircies par l'histoire ou par la justice en France. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est en fin de compte le défaut originel, natif de la Ve République, hein, d'être né grâce à des officines secrètes, des polices parallèles, à des barbouzes en un mot. C'est un peu une république de barbouzes qui naît avec De Gaulle, bien sûr. De Gaulle, immaculé, évidemment, insoupçonnable. Hein, il est au-dessus de ça, il ne veut rien savoir, etc. Mais enfin, en fait, c'est quand même la république gaulienne née dans cette atmosphère-là. Et c'est une atmosphère assez méphitique. Hein. Juste une petite chose. C'est la violence de la conquête coloniale algérienne aussi qui, au moment de la fin de la guerre d'indépendance, finit par ressurgir. La conquête de l'Algérie a été une conquête d'une très très grande violence, avec des massacres de population, des génocides comme nous dirions aujourd'hui, au XIXe siècle, entre 1850 et 1880. La pacification en Algérie a fait sans doute des dizaines de milliers de morts, au bas mot, hein, on a massacré des populations entières et on s'est emparé de leurs terres. Cette violence initiale qui ensuite s'est perpétuée en Algérie, n'oubliez pas le massacre de Sétif le 8 mai 1945, comment voulez-vous que ce n'ait pas abouti à une telle violence dans la guerre d'indépendance, puis ensuite dans les dernières années des négociations de paix? Cette violence est ressortie, a ressurgi en quelque sorte. Lorsqu'on a semé une certaine violence, on récolte des fois des décennies après cette même violence.